Bonjour à toutes et à tous. Merci tout d'abord à la FMSH de m'avoir donné la possibilité de présenter cette recherche sur la fiction post-humaniste, notion à laquelle j'ai consacré un séminaire à l'Université Paris Nanterre, un colloque le 11-12 mars prochain, évidemment si l'éternelle crise sanitaire nous le permet, et un ouvrage qui sortira en 2021. Mon intervention est partagée en trois sections. Le contexte de la fiction post-humaniste, ensuite ce qui la rapproche et la différencie de la science-fiction et de type cyberpunk et de la dystopie, et à la fin quelques exemples de romans post-humanistes. J'ai commencé ce travail il y a 3 ans, à peu près par hasard. Par intérêt intellectuel, j'ai lu un article sur le transhumanisme, et évidemment ensuite plusieurs ouvrages sur cette question. Entre-temps, j'avais compris aussi qu'il existe des écrivains français qui s'intéressent aux transformations subies par l'homme suite aux technologies qu'on appelle aujourd'hui NBIC. Je me suis aperçue de plus en plus que ces problématiques avaient cessé d'intéresser le champ de la science-fiction, celui des dystopies, et qu'il existe d'écrivains sur tous les continents, dans tous les pays, sensibles au réel décrit par les nouvelles technologies. J'ai compris vite alors qu'il s'agissait d'une nouvelle forme littéraire construite autour de la figure du post-humain, des romans qui se situent entre la dystopie et la science-fiction sans être ni l'une ni l'autre. Donc la fiction post-humaniste est la conséquence et la traduction littéraire d'un nouveau courant de pensée, une nouvelle idéologie, le transhumanisme, auquel la fiction réagit soit en l'illustrant, soit en le critiquant. Mon travail de 3 ans a porté sur un corpus de la littérature française contemporaine, mais ce modèle peut être évidemment élargi ensuite à d'autres littératures nationales afin d'élaborer des études comparatistes autour de la création de l'homme post-humain. Pour construire la notion de fiction post-humaniste, je me suis attachée à étudier les fondements culturels et philosophiques de la fiction post-humaniste. Ensuite, à mettre en évidence son archéologie littéraire, à analyser sa forme et sa thématique dominante, à montrer ce qui rapproche les dizaines de romans qui font partie de la littérature française contemporaine et ce qui les différencie des genres proches comme la science-fiction de type cyberpunk et les dystopies. La fiction post-humaniste s'inscrit donc dans la littérature contemporaine. Elle puise à la fois dans des cultures anciennes ou plus récentes et se rend très attentive au présent, notamment aux dernières avancées technoscientifiques et à leurs conséquences. Évidemment, l'introduction de la machine dans le corps et dans la pensée humaine n'est pas un thème très récent. Nous assistons avec la fiction post-humaniste à une réitération littéraire de l'homme nouveau, qui avait déjà traversé les 18e, 19e, 20e siècles. La fascination pour les découvertes scientifiques se retrouve dans la construction fictionnelle du couple binaire créature et créateur. La fiction post-humaniste donne aussi de l'écho au mythe de l'immortalité, d'un surpouvoir sur la mort, sur la ma maladie, inoculée par les avancées technoscientifiques, d'une jeunesse éternelle et d'un bonheur sans limite temporelle. C'est pour cela que d'une certaine manière, cette fiction est une continuation des mythes de Prométhée, d'Icare, du Golem, de l'exemple d'Achille dans la mythologie grecque en vulnérable aux blessures, ou de Talos, le géant de bronze qui protège l'accès à la Crète. Elle est aussi une continuation des théories de l'animal-machine, de l'hybridation, des productions de machines célibataires, du surmâle d'Alfred Jarry. À cette dimension fictionnelle de l'homme nouveau, donc de l'homme transformé, se rajoute la dimension politique des régimes totalitaires qui agitent et partagent le XXe siècle. Tout cela marquant le rôle de plus en plus dominant, écrasant même évolutif de la technique. Donc l'homme nouveau fabriqué par les régimes totalitaires se prolonge ensuite dans le nouvel homme nouveau, imaginé par le transhumanisme, grâce au partage de certaines caractéristiques favorisées par la technique, comme l'uniformisation du comportement et de la pensée humaine, ainsi sa manipulation, sa robotisation, sa surveillance, notion introduite par Jean-Gabriel Ganassia, qui insiste sur le fait que les risques d'asservissement subsistent, mais les formes de servitude diffèrent aujourd'hui. Donc la fiction post-humaniste s'enchaîne en aval de tous ces concepts récupérés et véhiculés par le transhumanisme, en se proposant de construire des mondes alternatifs. Elle témoigne aussi du fait que la fiction n'est pas indifférente à la recherche scientifique. Les écrivains qui s'intéressent à toutes ces questions se laissent modifier par la même information que les théoriciens, mais leurs instruments de travail ne sont pas les mêmes, évidemment. Puisque si les théoriciens cherchent à crédibiliser leurs recherches, les écrivains ne veulent surtout pas imposer la vérité dans leur fiction, à valider leur travail, mais cherchent à construire des versions imaginaires. Si la fiction post-humaniste est donc rédigée en marge de tout ce thème transhumaniste, pourquoi je l'appelle post-humaniste et pas transhumaniste? Nous savons que le transhumanisme arrive bien après le post-humanisme, par ordre chronologique, que le transhumanisme est un des courants du post-humanisme et que le débat autour du post-humanisme est beaucoup plus assidu et sa définition beaucoup plus fluctuante que celle du transhumanisme. Donc, la conséquence de la réalité façonnée par le transhumanisme est toujours déléguée au post-humanisme en tant que posture philosophique argumentative dans laquelle s'en servent justement les positions prises par les écrivains contemporains. Si le transhumanisme nous raconte qu'il ne faut pas renoncer au rêve d'une vie sans mort et d'une jeunesse sans vieillesse, car maintenant le progrès scientifique nous garantit notre prolongement par toutes sortes de prothèses, au post-humanisme, nous pouvons confier toutes nos interrogations et toutes nos suspicions concernant ces questions. S'il existe plusieurs étapes et plusieurs approches dans le post-humanisme, nous l'associons en France avec la pensée de Michel Foucault, de Jacques Derrida en Allemagne avec celle de Heidegger, de Peter Sloterdijk, les travaux de Habermas aux États-Unis avec les travaux d'Asta, de Catherine Hayes, de Donna Haraway. En revanche, il existe pour l'instant une seule étape pour le transhumanisme qui s'attribue un surpouvoir idéologique. J'ai travaillé avec les notions de Howard Tyler Samuelson, qui fait la différence entre le post-humanisme technoscientifique, qui porte au nu la science, la raison, le progrès, et le post-humanisme qu'il appelle philosophique et culturel, qui est plus artistique et plus littéraire, et qui intègre tous nos questionnements sur le décentrement de l'homme. Donc la fiction post-humaniste s'inscrit d'une manière naturelle dans le cadre du post-humanisme culturel et philosophique, qui se trouve en réception critique et spéculative de tout ce que le transhumanisme pratique en tant qu'idéologie invasive sur le corps humain. Le post-humanisme culturel intègre aussi l'entrée de la science dans la culture, en conséquence dans la littérature aussi. Pour beaucoup de spécialistes, il s'agit de signaler désormais une crise qui affecte l'expression culturelle, et littéraire aussi bien entendu. D'après moi, il s'agit d'un changement tout simplement des pratiques culturelles et des formes d'organisation socio-économique qui se reflète dans les récits. Nous parlons d'une organisation en réseau aujourd'hui afin de montrer la portée de la communication, de l'information qui désigne des nouveaux types de relations interhumaines. Ce nouveau mode de vie des individus, un réseau donc, un nouveau savoir aussi, spécialisé pour chaque questionnement, une nouvelle culture, apparaissent comme possibles avec les années 1980 et l'importance des compétences spécifiques. L'importance de l'interdépendance de ces compétences aussi. Nous avons donc d'un côté un discours totalisant, l'image d'un discours totalisant incarné par le transhumanisme, et de l'autre celle d'un discours post-humaniste qui morcelle le savoir absolu dans une pensée spéculative et critique, fragmentée, libérée d'une politique régulatrice. Donc il n'existe pas qu'un seul récit post-humaniste, mais plusieurs fragments de récits, plusieurs théories critiques et culturelles. Nous sommes ainsi loin donc de l'universalité de l'idéologie totalitaire qui s'est coulée dans l'universalité du discours transhumaniste. Donc la fiction post-humaniste peut avoir des particularités inoculées par ces plusieurs récits culturels et contextuels, et les études comparatistes peuvent le montrer. J'ai constaté aussi la légitimation d'un nouveau récit transhumaniste, qui devient ainsi le méta-récit de l'interdisciplinarité entre scientifiques, qui se situe en amont, et les écrivains qui se situent en aval. Beaucoup de chercheurs se chargent de construire leur argumentation, de montrer leurs craintes autour de l'idée d'une rupture dans l'évolution jusqu'à maintenant linéaire de l'homme. Rupture induite directement par le courant concrétisé sous le nom de transhumanisme et diffusée dans la sphère socioculturelle et artistique dont le post-humanisme est en charge. Et les écrivains français se situent d'ailleurs dans cette perspective critique. Nous assistons aussi à un changement dans la manière de percevoir nos corps divisés en je et en moi, et à une mutation dans le discours culturel. Donc la figure du postulant devient le résultat de cette nouvelle manière d'envisager l'être humain et ses récits. Mais il n'y a pas que les idéologues et les théoriciens qui profitent de ces nouvelles modulations de l'être humain, mais aussi les architectes des mondes fictionnels, les écrivains. Nous retrouvons dans la fiction post-humaniste une interprétation critique et spéculative du réel, façonnée en amont par les idéologues et les théoriciens. Et les écrivains nous ouvrent les yeux sur les alternatives de ce réel, et cela sur un ton parfois humoristique ou satirique. Dans la construction de cette fiction post-humaniste, terme que j'ai inventé, je suis partie d'une évidence thématique. Tous les romans post-humanistes proposent une réconfiguration de l'être humain par le recours à des interventions directes sur le corps, mais aussi par la modification de ses repères socioculturels et politiques dans un mélange des données réalistes et des données spéculatives. Avec la fiction post-humaniste, nous sommes dans une interprétation du capitalisme technoscientifique. Les conséquences des travaux des scientifiques et des philosophes sur ce capitalisme technoscientifique, comme nouveau mode de fonctionnement qui facilite l'ascension du transhumanisme, se retrouvent dans le fictionnement de la fiction post-humaniste. Donc, la reconstruction du nouvel homme nouveau passe par certains thèmes que le transhumanisme n'ignore pas et que les écrivains, les auteurs de fiction post-humaniste développent abondamment dans leur création. C'est en fonction de ce thème que j'ai regroupé les dizaines de romans que j'ai analysés. Certains écrivains, eux, déclarent même être partis dans la rédaction de leur fiction d'un nombre spécifique d'ouvrages théoriques sur la reconstruction du post-humain. Il est intéressant ensuite de décortiquer dans chaque fiction les sources théoriques qui ont constitué le squelette de leur fiction. C'est stimulant aussi de constater l'interprétation que chaque écrivain donne à ses sources. C'est encore plus stimulant d'observer que les écrivains arrivent aux mêmes conclusions que les théoriciens, mais par des approches qui sont évidemment beaucoup plus spéculatives. C'est à cause de tout cela que le roman post-humaniste est ainsi très contextualisé. Cela constitue même sa particularité. Sans le paratexte à fonction critique des thèmes transhumanistes, et par l'intermédiaire duquel le narrateur ou un de ses personnages spécule sur la technoscience, la fiction post-humaniste elle-même serait très appauvrie. Je pense que cette unité thématique constitue le lien le plus fort des auteurs de fiction, des fictions post-humanistes, qui par rapport aux auteurs d'un genre bien défini comme la science-fiction, peuvent ensuite passer facilement à d'autres thèmes. C'est d'ailleurs l'une des questions les plus essentielles et qui peut contenir en elle le noyau d'un bon débat dans le futur. L'écrivain contemporain change-t-il de style quand il quitte les thèmes transhumanistes pour en approcher d'autres? Le changement, ce n'est pas ce que définit un auteur de science-fiction que nous repérons tel quel. Cela constitue même l'unité du genre. Et le changement thématique, en revanche, est presque obligatoire pour un auteur de fiction contemporaine. C'est peut-être toute la différence entre une forme littéraire, qui est la fiction post-humaniste, et un genre littéraire bien défini comme la science-fiction ou la dystopie. Pour renforcer l'idée d'une forme littéraire, à l'unité thématique de mon corpus, j'ai ajouté aussi une unité formelle. Donc, je suis arrivée au constat que la fiction post-humaniste peut prendre des formes narratives différentes, accentrées et rhizomatiques, ou linéaires en reposant sur un système de prolepse à fonction spéculative et d'analepse à fonction explicative, ou encore en troisième cas, par le jeu de deux ou même de plusieurs plans fictionnels. Ces trois structures narratives post-humanistes sont invoqués par la fonction pédagogique ou didactique de la fiction post-humaniste. Cette fonction pédagogique est déléguée à un personnage de récit ou au narrateur lui-même. Donc, ces deux voies peuvent ainsi se confronter, l'une étant favorable au progrès transhumaniste et l'autre bien hostile. Une autre caractéristique de cette fiction post-humaniste est qu'elle ne se termine pas sur une fin moralisatrice. Elle ne se termine même pas sur une fin précise. Au contraire, les auteurs de ce roman laissent au lecteur le choix de réinventer leur propre épilogue, de s'interroger, de continuer la fiction en fonction de leur lecture transhumaniste, de leur connaissance. Donc. Il existe aussi des similarités entre le roman en thèse et le roman post-humaniste, grâce au pouvoir de démonstration que les deux partagent, leur vision didactique et réaliste. Les romans post-humanistes empruntent aussi des techniques narratives aux romans réalistes, puisque des référents fictifs se mêlent aux référents réels. C'est même la particularité de cette fiction post-humaniste qui fait abondamment appel aux données réalistes. Par exemple, l'intrigue se déroule toujours dans des espaces géographiques bien réels, qu'on peut identifier aujourd'hui sur une carte, et les personnages sont l'identité fictionnelle de plusieurs personnes bien réelles, comme Norbert Wiener, Ray Kurzweil, Peter Thiel, Bruno Latour, André Gorz. Mais les gens par rapport auxquels je me suis proposé le plus de construire la fiction post-humaniste afin de lui trouver une place bien définie, une place à elle toute seule, reste la dystopie, la science-fiction de type cyberpunk. Donc la fiction post-humaniste porte sur une problématique qui montre des points communs avec la dystopie et avec la science-fiction de type cyberpunk, tout en se détachant des deux genres, puisqu'elle n'est pas l'œuvre de la pure imagination et d'une anticipation, mais d'une maîtrise du techno-savoir, de la culture post-humaniste et de l'information concrétisée autour du transhumanisme. La fiction post-humaniste est le plus souvent confondue avec la dystopie. Néanmoins, elle se construit à marge des thèmes transhumanistes et ébauche un monde situé dans le possible, moins dans l'imaginable. Elle s'adresse à une nouvelle forme de l'homme vivant, c'est-à-dire à l'être humain qui est devenu liquide, pour citer Zygmunt Bauman. Nous ne sommes plus dans l'incrimination d'une société totalitaire, difficilement localisable dans un espace géographique, comme dans les dystopies par exemple, mais dans une société actuelle, néolibérale, dirigée par le désir des investisseurs de maximiser leurs profits. La préparation d'un homme post-humain se fait en général par de l'agent privé et grâce au consentement de l'être humain, c'est ce qu'on peut lire dans la fiction post-humaniste. Si un nombre de thèmes liés à la société totalitaire circule quand même de la dystopie vers la fiction post-humaniste, c'est plutôt inquiétant. Cela signifie qu'en essence, les outils performatifs utilisés par les politiques totalitaires et par les politiques néolibérales sont les mêmes. La surveillance, par exemple, qui devient surveillance. Si les dystopies proposent de dénoncer la société totalitaire par le truchement des personnages qui cherchent à s'enfuir, la fiction post-humaniste nous présente le monde tel qu'il est aujourd'hui dans les sociétés occidentales, apparemment libre, mais soumis à un contrôle subversif qui vise l'uniformisation de nos comportements en tant que consommateurs, uniformisation par la culture, par l'information, par les puces électroniques, par la robotisation via les smart drugs, par les psychotropes. La fiction post-humaniste évoque toujours l'existence de deux espèces humaines. Les humains qui peuvent se permettre les techniques d'amélioration et même d'augmentation, ou le coût élevé de la chirurgie esthétique, et les sauvages, les non augmentés, les non améliorés. La dystopie est la fiction du passé, tandis que la fiction post-humaniste est la fiction de l'avenir proximal. Il ne faut pas faire un effort trop important d'imagination, c'est la fiction qui se situe dans le prolongement tout juste de notre présent, de ce que nous connaissons. Quant au cyberpunk, le monde excessif qu'il évoque rime parfaitement avec le transhumanisme qu'il précède de très peu. Les deux se proposent de préparer le surhomme ou au moins des versions pas très éloignées de celui-ci. Dans cette société néolibérale, très informatisée, le corps perd sa valeur ontologique. Il est un accident ou un état intermédiaire qu'il faut fuir. Mais plus une société est technologisée, plus elle est facile à contrôler et à surveiller. Ce ne sont plus seulement les corps qui méritent d'être contrôlés, mais leur intention traduite dans des informations faciles ensuite à orienter. De la même manière qu'avec la dystopie, la fiction post-humaniste partage des thèmes communs avec le cyberpunk, qui arrive dans le contexte du renouvellement idéologique proposé par Milton Friedman, et peu avant l'explosion du web, toile d'araignée en français, qui nous garde tous en réseau dans un espace uniformisé par le recours à des outils très simples comme l'information et la communication. Donc le monde fictionnalisé par le cyberpunk est théorisé par le transhumanisme et critiqué par la fiction post-humaniste. Les deux types de fiction, cyberpunk et post-humaniste, se situent à l'opposé. La fiction post-humaniste attire l'attention du lecteur sur le monde transhumaniste préfiguré par le cyberpunk. Elle se situe ainsi sur deux dimensions temporelles différentes, Le cyberpunk est en amont du transhumanisme, tandis que la fiction post-humaniste est en son aval. L'histoire de l'individu attrapé dans le réseau et ensuite soumis au contrôle et à la modification des comportements commence avec le cyberpunk et avec l'informatisation de la société néolibérale. La réflexion des théoriciens post-humanistes qui considèrent aujourd'hui le corps comme une étape intermédiaire dans l'évolution de l'être humain s'enchaîne ensuite assez naturellement. Les années 1980 apportent des changements, certes sur le plan fictionnel, mais aussi sur le plan socio-économique. La représentabilité de ce nouveau monde qui s'attache à fabriquer le post-humain, nous le retrouvons pleinement dans la fiction post-humaniste. À cet imaginaire, déjà formulé par le cyberpunk, se rajoute le projet de la singularité technologique qui rend encore à l'être décharné par le cyberpunk. La fiction post-humaniste s'occupe justement de ce corps-là. Elle évoque des avancées scientifiques tangibles sans la possibilité de la disparition du corps, mais de sa fragmentation invisible. Il y a invisible, en jeu et un moi numérique. Puis, la fiction post-humaniste par rapport à la fiction de type cyberpunk convoque bien les dangers des interventions directes sur le corps biologique du fait des révolutions technoscientifiques. Elle présente au lecteur un monde qui pourrait devenir possible si les expériences scientifiques faites en laboratoire échappent à tout contrôle éthique. Si les outils de surveillance s'amplifient, si les puces électroniques se multiplient. La modification de nos corps, conjuguée à la modification de notre environnement, prépare sans doute la mise en scène lente d'un nouvel être humain nous pourrons l'appeler être post-humain. Celui-ci ne sera pas un être fabriqué des pièces interchangeables comme dans le cyberpunk, mais conformiste, dû à un comportement dirigé par les États-nations auxquels nous déléguons nos jeux, par les GAFA auxquels nous déléguons nos moyens numériques. Réparable aussi par l'accès à des produits mis sur le marché grâce à l'argent des investisseurs privés. Une fois que la demande d'un produit aura été créée, un nombre de plus en plus important de consommateurs vont se précipiter pour se le procurer. Le post-humain est avant tout un être dont le comportement sera modifié et ainsi en permanence contrôlé. Donc, les écrivains post-humanistes ne font que nous avertir sur cette réalité sans qu'ils soient prêts à signer des manifestes. Et quelques mots sur ces romans avant de vous donner une idée à peu près précise de leur contenu. Le post-humain, d'après moi, fait son début en France avec les deux fictions de Michel Houellebecq, Les particules élémentaires et La possibilité d'une île. Ensuite, en 2009, Isabelle Jarry publie aux éditions Stock, Contre Monsieur l'ennemi, un roman conçu autour d'un micro-organisme doué d'intentionnalité, mais sans voix caractérielle, qui arrive à modifier facilement les repères socioculturels du chercheur Basile Archimède, qui est le personnage principal de son roman. En 2013, Anne-Marie Gara rédige son roman, Programme sensible, autour du monologue du personnage principal, Jason, qui devient son ordinateur à force de construire une relation solide avec celui-ci et en dépit des relations humaines plus saines. En fait, ce roman évoque notre actualité, puisque nous sommes tous devenus nos ordinateurs, obligés de nous cacher derrière nos écrans pendant cette guerre contre un ennemi invisible, d'où la force prémonitoire de la fiction post-humaniste. Contre le virus, nous avons choisi Vol et Snolens de déléguer au monde extérieur nos images, les images de nous-mêmes, et nos moyens numériques, qui sont devenus ensuite nos prolongements, nos prothèses, les prothèses de nos corps vivants pour évoquer les travaux de Catherine Hayes. Même si Norbert Wiener avait imaginé une nouvelle science qui pourrait libérer l'homme de ce corps biologique en espérant aussi lui assurer beaucoup plus de liberté et plus d'autonomie, son projet échoue en partie puisque le moi numérique de l'homme fait partie intégrante d'un énorme réseau de données manipulées, traquées, orientées. L'homme finit aujourd'hui par aimer sa condition d'esclave, comme le disait Huxley, par l'usage volontiers des technologies de contrôle, des outils d'ordre social, comme le tracking sur Internet, via les réseaux sociaux, les caméras de vidéosurveillance, de reconnaissance faciale, le bornage. Donc nous assistons à une réévaluation, à une révolution aussi de l'être humain, donc à la fabrication de l'homme post-humain, qui devient ainsi une composante essentielle du capitalisme de surveillance. Donc, en tout, une donnée transformable, une idée sur laquelle insiste l'écrivain Rémi Gageac. Dans ses deux romans, Le Marché, publié en 2013, et Life Plus, La Vie Augmentée, publié en 2015. Donc, les deux romans abondent d'ailleurs en spéculation sur le rôle négatif de la technoscience. Mais dans la préparation de l'homme futur, chaque écrivain s'y prend par des moyens différents. Par exemple, Patrick Laurent, dans son roman Combattiste, publié en 2013, nous montre que la liberté n'est qu'une notion relative. Comment peut-on être libre dans une société qui alterne la surveillance pratiquée par l'État occidental sur nos corps biologiques avec la surveillance de nos identités numériques déléguées à la Silicon Valley, à laquelle nous fournissons un nouveau capital, c'est-à-dire les données? Donc, nous nous prêtons alternativement aux institutions publiques et aux institutions privées. L'excès d'accès à l'information est aussi un instrument de contrôle qui déforme la pensée humaine. Nous le montre Marc Dugain dans Transparence, publié en 2019 chez Gallimard, une fiction qui importe l'essai dans le texte. Dans le texte, la fonction spéculative sur la fabrication de cette nouvelle, de l'homme post-humain. Cette fabrication devient possible dans son roman via le recueil des données des utilisateurs du programme Endless qui fait concurrence à Google. La fiction de Camille Spédit, Cosmétique du chaos, publiée en 2020, résume la cohérence entre le libéralisme et le transhumanisme. Les deux injectent à l'homme post-humain la logique de la performance à tout prix sur le marché du travail, par un visage réparé et corrigé grâce à la chirurgie esthétique ou par une santé sans faille, par un comportement digne d'un robot en tout cas. D'autres techniques de contrôle sont imaginées par Pierre Assouline, Golem 2016, Gaël Obiegli, Une chose sérieuse 2019, Pierre Ducrozet, L'invention des corps 2017, Le Grand Vertige 2020, Elena Sender, Surtout ne mens pas en 2015. Donc, il s'agit dans tous ces romans de l'intégration des puces dans le corps, ce qui prête aux personnages des comportements aussi prévisibles que ceux des machines. Pierre Assouline utilise par exemple le mythe du Golem comme support dans la construction du trauma subi par le personnage principal, Gustave Meyer, auquel le professeur Klabman insère des électrodes afin de le contrôler à distance et le faire taire ensuite, comme le Maharal l'avait déjà fait avec son golem. Dans une chose sérieuse, le personnage principal ne porte pas de nom. D'ailleurs, il se dit « je suis une non-personne ». C'est un personnage qui est dépourvu de toute identité dans les mains de son créateur, un savant fou, qui le dirige par l'intermédiaire d'une puce, 6 jours par semaine, lui permettant d'être lui-même le dimanche. Presque chaque roman post-humaniste est peuplé d'un savant fou qui décide du destin de sa créature. Il y a en cela le roman de Gaël Obiegli, Une chose sérieuse, ne fait que reprendre un modèle classique des fictions post-humanistes. Il s'agit d'un type de folie qui repose sur l'obstination de refaire l'être humain par la technoscience. La question de la folie du savant riche qui peut se permettre de disposer de ses créatures est approchée aussi par Pierre Ducrozet dans Le Grand Vertige et L'invention des corps. Si dans L'invention des corps, nous assistons à une proposition de modification de nos corps suite à des mutations que la technoscience opère en nous, dans Le Grand Vertige, c'est la modification du corps par rapport au contexte, par rapport à l'environnement qui intéresse l'écrivain. Parker Hayes, L'invention des corps, et le savant fou qui fait implanter des puces à Alvaro, bon endroit dans la chair. Adam Tobias est un autre savant fou, personnage principal du Grand Vertige, mais un savant qui reconstruit l'extérieur afin de modifier ensuite l'intérieur de l'être humain. Sur le modèle du réseau infini de données, qui est le monde, Adam Tobias construit le réseau Télémaque. Un des principaux recrutés du nouveau mode de fonctionnement global que Tobias désire mettre en place est le chercheur Nathan Régnier. Ces travaux portent sur une plante capable de capter l'intégralité de l'énergie solaire dans le but de la transférer sur un microcampus. Pourquoi? puisque ce geste marquerait la fin de l'ère du capitalisme et du pétrole et l'installation d'une société horizontale. Et je cite, pas de chef, pas d'ordre, des directions qu'on l'on fixe ensemble, pas de division de travail, tout le monde fait un peu de tout, donc des nouvelles relations interhumaines. Donc, surtout ne ment pas, Elena Sandel nous montre que la fabrication du post-humain passe par le contrôle des sentiments et des émotions via des smart drugs, des implants cérébraux, dans le but de dénoncer l'esclavage technique et l'asservissement. Beaucoup d'auteurs qui ont écrit à marge du transhumanisme, c'est vrai, s'intéressent aussi à la dystopie. Par exemple, le roman de Christine Vogel-Thuranville, La fabrique d'un drôle de genre, se rapproche du point de vue thématique de la dystopie de Huxley grâce au contrôle biotechnologique de la procréation. Aussi, le roman de Virginie Tournay, Civilisation 0.0, publié en 2019, qui dénonce une société totalitaire via des moyens de contrôle orwellien. Le roman d'Alexis Brocas, aussi un dieu dans la machine, publié en 2018, rejoint également la catégorie classique de surveillance pratiquée sur la population, une surveillance aussi orwellienne, puisque les employés de l'archel conseil sont en permanence soumis à un contrôle via les algorithmes. Dans Magique aujourd'hui, construit sur deux plans, Isabelle Jarry réserve un rôle plus important au robot Today, qui est plein d'affection, de bonnes intentions, tout mignon, tandis que l'humain Tim, envoyé en stage de déconnexion, se voit dépossédé avant tout de sa liberté. Et par cela, Isabelle Jarry prend à contre-pied la fiction post-humaniste qui se déroule normalement d'après un scénario complotiste. Elle, l'écrivaine, conçoit au contraire le robot Today pour apporter de l'aide à l'homme Tom, qui, malgré son homonyme, puisque Tim signifie équipe en anglais, se condamne à une vie solitaire. La société le punit pour cela. Patrick Leron conçoit dans Orphex, publié chez Gallimard en 2016, le même modèle de robot. Un robot aussi gentil et indépendant que Today. Le personnage humain, Alix, est encore plus souffrant que Tim, puisqu'elle est atteinte d'une tumeur cérébrale. En tant que lecteur, nous assistons toujours au même jeu. Le langage symbolique versus le langage humain que nous découvrons dans Magique aujourd'hui, avec beaucoup plus de certitude pour le langage symbolique et beaucoup plus d'aléas pour le langage humain. Dans le roman d'Antoine Bello, l'intelligence artificielle Ada, le roman d'ailleurs s'appelle Ada, il est sorti en 2016, donc Ada est tout le contraire du robot Today ou du robot Orphex. Elle prolonge Ada, la tradition du monstre dont la matière fut travaillée par Frankenstein. La matière en soi a changé avec le roman du XXIe siècle, puisque Ada, c'est un programme informatique. Elle est ainsi partout. Elle n'a pas la moindre intention de se rendre utile à l'être humain, bien au contraire, elle profite de son corps débiologisé pour s'enfuir, espionner, s'infiltrer, gagner en autonomie et en indépendance. De la même manière que dans les romans Magique aujourd'hui et Orphex, l'écrivain Antoine Bello consacre plus d'attention à l'identité immatérielle de son personnage qu'à l'être humain. Dans Un dissident, publié en 2017, un roman de François-Régis de Guénevaux, celui-ci construit un personnage principal, Christian Tell, qui est le produit d'un autre savant fou, Stanislas Kurzilev. Mais la créature, Christian Tell, finit par se révolter. Il change sa condition de cobaye contre celle d'un dissident et la réussite sociale facilitée par les capacités intellectuelles augmentées contre le destin d'un homme ordinaire qui se perd dans la foule. Ce matin, Maman a été téléchargée de Gabriel Naège, pseudonyme de Jean-Gabriel Ganassia, un roman publié en 2019, évoque de la même manière que la possibilité d'une île de Michel Houellebecq, la possibilité d'une révision de l'être humain par la résurrection et par la réincarnation. Michel Vidal, qui est un personnage principal, préfère dans ce roman, ce matin maman était téléchargée, préfère se réincarner en une femme pulpeuse, au beau corps qu'elle a choisi elle-même, et cela grâce aux travaux d'un autre savant fou, docteur Marco Varoublis, qui insiste sur le fait que les corps se reconstitueront un jour. Et enfin, notre vie dans les forêts de Marie Darrieussecq, publié en 2017, est une fiction peuplée par des robots, par la mécanisation des comportements humains suite à des opérations répétitives, par des êtres pucés et par un double qui partage avec l'original le même nom, Marie, ce qui trouble évidemment énormément le récit.